Merci d'être à l'écoute de RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris. Il est 3h.
Mathis Limano.
Et à la une, le conflit dans l'est de la RDC, ses conséquences sécuritaires, humanitaires, mais aussi scolaires. Plus d'1 400 000 écoliers privés d'école au nord et sud Kivu. Kinshasa tire la sonnette d'alarme. À suivre, la guerre commerciale menée par Donald Trump dans le viseur du président américain, la Chine, le Mexique et le Canada. Il réplique en taxant les produits américains, mais s'inquiète grandement des conséquences pour leurs économies. L'Ukraine a devant elle 6 mois de capacité militaire pour résister. C'est l'analyse à suivre dans cette édition. Alors que Washington a coupé son aide militaire, l'Union européenne tente de prendre le relais. Et puis en fin d'édition, l'histoire rocambolesque d'un tableau volé il y a 50 ans en Pologne et retrouvé aux Pays-Bas. Dans l'est de la RDC, des écoles réduites en cendres ou endommagées, d'autres devenues camps de refuge. Le secteur éducatif est aussi frappé par les offensives du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Plus de 2500 écoles affectées, avec dans les seules provinces du Kivu plus de 1 400 000 enfants privés d'école. Des chiffres communiqués par le gouvernement congolais. Kinshasa tire la sonnette d'alarme. Raissa Mali, ministre congolaise de l'éducation, avec Pascal Moulégois.
On a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement, des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le nord et le sud Kivu, les écoles qui sont occupées par les populations déplacées, pas seulement dans les zones directement affectées, mais également dans les provinces éducationnelles à côté. On a aussi eu à déplorer une école qui aurait servi de cimetière. On a des écoles pour lesquelles les tableaux ont été détruits, les bancs servant de bois de chauffe, les portes des latrines, etc. Cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Ici, c'est un double crime qu'on affecte les enfants maintenant, et le fait qu'on leur prive de leur scolarité, cela rend extrêmement difficile la société plus tard. L'éducation doit rester sacrée. Donc il y a des écoles qui ouvrent, et on voit que les parents gardent encore majoritairement leurs enfants à la maison. On n'a qu'une présence autour de 50% des enfants dans les écoles, ce qui montre bien à quel point le sentiment d'insécurité reste très élevé.
Ils avaient été annoncés par Donald Trump il y a un mois, puis reportés. Ce mardi, la hausse des droits de douane est entrée en vigueur. 20% sur les importations chinoises, 25% sur celles venues du Mexique et du Canada. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a répondu fermement à ces annonces. Pour lui, les ambitions de Donald Trump sont bien claires.
Ce qu'il veut, c'est voir l'économie canadienne s'effondrer, parce que ça nous rendrait plus vulnérables face à une annexion. Mais je veux insister sur un point, ça ne se produira jamais. Nous ne serons jamais le 51e État des États-Unis. En revanche, il peut faire du mal à notre économie. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire. Mais il va vite se rendre compte, en même temps que les familles américaines, que cette décision va faire du mal aux gens, des deux côtés de la frontière. Et je peux vous assurer que tous les pays comprennent que si les États-Unis sont prêts à faire ça à leur allié le plus proche, leur voisin, leur ami, alors personne n'est à l'abri d'une guerre commerciale. Everyone is vulnerable
to a trade war. Et après les mots, les actes, le Canada annonce taxer en représailles les importations américaines. Mais alors que Donald Trump menace d'encore surenchérir, le ministre américain du Commerce annonce qu'un compromis pourrait être trouvé dans les prochains jours avec le Canada et le Mexique. Autre pays visé par ces taxes, la Chine, riposte également de Pékin qui a imposé des taxes sur des produits agricoles américains. La Chine ira-t-elle encore plus loin dans les représailles? On devrait en savoir plus ce mercredi avec l'ouverture à Pékin de l'Assemblée nationale populaire et le discours annuel du Premier ministre Li Qiang, Heike Schmidt.
C'est le plus grand rendez-vous politique de l'année et il doit envoyer l'image d'une Chine garante d'un certain ordre mondial qui remplit le vide laissé par les États-Unis. Lao Jingtian, porte-parole de l'Assemblée nationale populaire, n'a laissé aucun doute. Pékin compte, je cite, « apporter plus de stabilité et de certitude au monde ». Seulement voilà, les droits de douane punitifs ciblent la Chine au pire moment. Crise immobilière, chômage des jeunes, demande intérieure en berne. Depuis la pandémie, Pékin peine à remonter la pente. Mais la Chine a une forte résilience et un grand potentiel à assurer Lao Jingtian. Comment relancer la consommation des ménages et ainsi compenser une possible baisse des exportations frappées par les taxes américaines? Le premier ministre Li Qiang devrait en dire plus lors de son discours devant les quelques 3000 délégués réunis dans le Palais du Peuple. Deux chiffres sont très attendus. D'abord, celui de la croissance qui devrait à nouveau tourner autour des 5%, et puis celui du budget militaire, probablement en augmentation comme chaque année.
Heike Schmidt, service international de RFI. Et puis 1750 milliards de dollars, la somme est pharaonique. Il s'agit du montant des dividendes versés par les entreprises dans le monde l'année dernière. Une croissance boostée par les résultats du secteur bancaire et des géants de la tech. L'Union européenne au chevet de l'Ukraine après le gel de l'aide militaire américaine. La Commission européenne a annoncé ce mardi un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe et soutenir immédiatement Kiev. Pour l'heure, les forces ukrainiennes ont encore de quoi combattre et se défendre. Mais pour combien de temps? Réponse avec Pierre Servant, spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire.
Les Ukrainiens ont encore, je dirais, pour 6 mois de dotation militaire qui leur permettent de faire face aux différentes offensives russes. Donc il faut dans ce laps de temps que les Européens achètent assez massivement hors d'Europe, parce qu'on n'a pas suffisamment de munitions ou de missiles ou de drones en Europe, donc il faut acheter ailleurs. Et puis il faut s'inscrire dans la durée, et la durée, c'est la durée de ce que j'appelle la trahison de Donald Trump, hein, qui véritablement lâche l'Ukraine pour essayer de faire pression sur elle. Et donc il faut que les Européens s'inscrivent dans un temps moyen court de régénération encore plus forte de leur propre armement. Donc en fait, il faudra diversifier les armements sans pouvoir exactement compenser la fin de l'aide américaine. Si cette fin d'aide américaine est confirmée, pour l'instant, c'est une suspension.
Pierre Servant, invité de RFI à la mi-journée, au micro d'Anne Kantner. De son côté, Friedrich Merz, le futur chancelier allemand, prévoit une aide supplémentaire de 3 milliards d'euros pour Kiev, l'Ukraine, au cœur d'un sommet européen ce jeudi. Sommet que Viktor Orban menace de bloquer si des négociations de paix ne débutent pas prochainement avec Moscou. Mais avant cela, le président hongrois, proche des positions russes et américaines, sera à Paris ce mercredi pour rencontrer Emmanuel Macron. On en vient à cette mystérieuse histoire, celle d'un tableau volé en Pologne en 1974 et retrouvé 50 ans plus tard. Un tableau du peintre flamand Peter Bruegel le Jeune, on le croyait disparu à jamais. Il vient d'être identifié dans un musée aux Pays-Bas. L'œuvre a une histoire rocambolesque, parsemée de meurtres et liée au service secret polonais communiste de l'époque, avant d'être retrouvé avec l'aide d'un détective privé. Récit d'un tableau pas comme les autres avec Jean-Jacques Herry.
C'est un tableau rond et petit, 17 cm seulement, mais peint par l'un des plus grands maîtres flamands du XVIIe siècle, Peter Bruegel le Jeune, vers 1626. Il représente une paysanne, des pinces avec des braises fumantes dans une main, un chaudron d'eau dans l'autre. En 1974, un employé du musée national de Gdańsk constate sa disparition, et quelques jours plus tard, un douanier polonais est retrouvé mort, immolé par le feu. Il allait être interrogé par la police alors qu'il venait de signaler l'exportation illégale d'œuvres d'art via un port de la Baltique. Coïncidence, simple hasard, dans la Pologne communiste de l'époque, on s'empresse en tout cas de classer l'enquête sur le meurtre du fonctionnaire. Même chose pour celle du vol du tableau. Pendant 50 ans, on n'en parlera plus. Et puis l'an dernier, des journalistes d'un magazine d'art néerlandais sont intrigués par un tableau exposé dans un musée à Gouda et prêté par un collectionneur privé. Aidé dans leur recherche par la police, puis par l'intervention du détective Arthur Brandt, celui-là même que l'on surnomme l'Indiana Jones de l'art, ils parviennent à identifier le tableau de manière certaine. L'œuvre, qui vaut sans doute plusieurs millions d'euros, devrait bientôt retourner en Pologne, là d'où elle vient, mais son périple de 50 ans à travers l'Europe garde encore une grande part de son mystère. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Le premier lancement d'Ariane 6 va enfin avoir lieu. La fusée européenne devait s'envoler lundi, mais une anomalie l'a clouée au sol. Lancement prévu jeudi depuis Kourou, en Guyane française, à 16h24, temps universel. Et puis, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Arsenal quasi qualifié pour la suite après son carton 7-1 contre le PSV. Les Lillois, eux, ramènent un bon nul, un partout de Dortmund. Tandis que dans le derby madrilène, le Real prend une option victoire 2-1 sur l'Atlético. Ce mercredi, suite et fin de ses huitièmes allées avec le choc PSG-Liverpool. RFI, il est 3h10 à Paris.